Il est 18h sur France Culture, le journal, avec Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Immense cortège funéraire à Nasiriyah, dans le sud de l'Irak. Des milliers de personnes sont venues rendre hommage aux manifestants tués dans la ville par les forces de l'ordre. On fait le point sur la situation avec Omar Waman. Le secrétaire général de l'OTAN reçu à l'Élysée, Emmanuel Macron estime avoir sonné l'alarme à bon escient en parlant de mort cérébrale de l'Alliance Atlantique. Retour sur cet entretien avec Bertrand Galichet. Les loyers des résidences universitaires seront gelés en 2020. La mesure était réclamée par les organisations étudiantes pour faire face à la précarité. Explication d'Anne-Laure Jumet. Près d'un million de soutiens pour le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. C'est loin d'être suffisant. Les défenseurs du RIP se plaignent du manque de relais médiatique. C'est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la contestation en Irak début octobre. Après les attaques de protestataires contre des bâtiments officiels, dont le consulat d'Iran à Najaf, la répression a fait au moins 27 morts aujourd'hui à Bagdad et à Nasiriyah dans le sud du pays. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Aurélie.
Alors parlez-nous d'abord de Nasiriyah, foyer historique de révolte en Irak. Malgré l'arrivée de renforts de police, les manifestants ne se sont pas repliés et un cortège funéraire a même rassemblé des milliers de personnes dans la ville.
Oui, vous l'avez dit Aurélie, cette ville de Nasiriyah, qui est un des foyers de cette contestation qui a débuté il y a deux mois. Eh bien, cette ville a été hier le théâtre de violences sans précédent, inédites, déclenchées après la tentative des forces de sécurité de reprendre deux ponts occupés par des manifestants qui bloquaient l'arrivée de renforts policiers et militaires. Et les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la foule. On compte au moins 25 morts et des dizaines de blessés.
Et un couvre-feu a été décrété dans la ville, Omar.
Couvre-feu décrété, mais rapidement bravé par les contestataires qui sont descendus massivement dans la rue dans un climat quasi insurrectionnel pour participer aujourd'hui à un hommage aux victimes, un long cortège funéraire qui s'est vite transformé en une manifestation anti-gouvernementale. Et pour tenter d'enrayer cette spirale de violence, les autorités irakiennes ont limogé le commandant militaire nommé quelques heures plus tôt pour rétablir l'ordre dans cette ville de Nasiriyah. Une ville de Nasiriyah, symbole de l'impuissance du gouvernement irakien face à des manifestants déterminés.
Et ce mouvement de révolte, Omar, c'est celui de la jeunesse chiite d'Irak contre la mainmise iranienne sur le pays.
Oui, l'incendie du consulat d'Iran à Najaf, ville sainte de l'islam chiite, où chaque année des millions d'Iraniens viennent en pèlerinage. Eh bien, cela marque un tournant dans ce mouvement de contestation qui se durcit. Jusque-là, les manifestations étaient pacifiques à Najaf. Mais devant l'inaction du gouvernement, des centaines de manifestants ont attaqué la représentation diplomatique et remplacé le drapeau iranien par celui de l'Irak, au cri de l'Iran dehors, le régime des mollahs accusé de soutenir le gouvernement irakien dont les contestataires réclament la chute depuis le 1er octobre. Une classe politique qualifiée de corrompue. Selon des chiffres officiels en Irak, près de 410 milliards d'euros ont été détournés ces 15 dernières années, soit deux fois le PIB du pays.
Omar Waman. Les dirigeants des 29 pays membres de l'OTAN se retrouvent la semaine prochaine en sommet à l'occasion des 70 ans de l'Alliance militaire. En amont de cette réunion, le secrétaire général de l'OTAN a été reçu aujourd'hui à l'Élysée. Face à Jens Stoltenberg, Emmanuel Macron n'a pas répété que l'OTAN était en état de mort cérébrale, mais il ne renie pas cette expression controversée. Il estime au contraire avoir créé un électrochoc salutaire pour l'Alliance, Bertrand Galichet.
Oui, Emmanuel Macron qui persiste et signe devant le secrétaire général de l'OTAN après la polémique déclenchée début novembre par son interview à The Economist. J'assume totalement d'avoir levé les ambiguïtés, a dit ce matin le président, à l'issue d'une heure d'entretien avec Jens Stoltenberg. Son diagnostic avait suscité des réactions épidermiques aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais aussi en Pologne et en Turquie. Le chef de l'État explique avoir fait ce constat à la suite des deux derniers sommets de l'OTAN, uniquement consacrés, selon lui, à savoir comment on pouvait alléger le coût financier de l'Alliance Atlantique pour les Américains. Il fallait peut-être un wake-up call, une alarme, dit le président. Emmanuel Macron se félicite que la priorité désormais soit plutôt de réfléchir aux finalités et aux objectifs stratégiques. Ce point de vue semble glisser sur le secrétaire général de l'OTAN, imperturbable, qui a défendu le fonctionnement et la doctrine modernisée de l'organisation, et en répétant que l'Union européenne est incapable de défendre seule l'Europe. Selon lui, les deux entités sont les faces d'une même maison. médaille.
Lors de cet entretien, Emmanuel Macron a aussi évoqué le Mali, où 13 soldats français sont morts lundi au cours d'une opération contre des djihadistes. Le chef de l'État ne s'interdit pas de revoir les modalités de l'intervention française au Sahel.
C'est en effet l'autre information en matière sécuritaire. D'abord, l'appel de la France à ses partenaires, essentiellement aux Européens, pour qu'ils soient davantage présents au Sahel. Au lendemain du choc provoqué par la mort accidentelle des 13 militaires français, Emmanuel Macron dit qu'une plus grande implication des alliés serait bénéfique. Il réclame des actes, pas des mots. Et surtout, le président se dit prêt à revoir toutes les options stratégiques de la France au Sahel. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue, alors qu'en coulisses, des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction persistante des autorités maliennes, malgré l'aide financière et militaire de l'Europe.
Bertrand Galichet, ce soir, la branche ouest africaine du groupe État islamique affirme avoir provoqué l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 13 militaires français lundi au Mali. On approche du million de soutiens pour le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel a reçu à ce jour plus de 996 000 signatures qui ne sont, cela dit, pas encore toutes validées. Le million de soutiens devrait être officiellement atteint au mois de décembre. Cela dit, c'est encore insuffisant pour déclencher l'organisation d'un référendum. Mais pour les défenseurs du RIP, ce serait déjà une victoire, mais une victoire au goût amer, Adrien Serrière, car selon eux, l'État et les médias ne jouent pas le jeu en n'informant pas suffisamment les Français sur le sujet.
Oui, c'est une faute, un déni de démocratie. Ce sont les mots des défenseurs du référendum d'initiative partagée, dirigés d'abord envers l'État. Ils regrettent qu'aucune communication n'ait été faite depuis l'activation du RIP. C'était en avril dernier. 250 parlementaires issus de la gauche et de la droite opposés à la privatisation des aéroports de Paris avaient déclenché la procédure. Il faudrait donc maintenant que 4 700 000 électeurs français aient signé la pétition d'ici mars pour qu'un référendum ait bien lieu. Ça s'annonce très difficile parce que les Français connaissent peu ou mal le sujet et ses enjeux d'après les militants du RIP qui continuent de tracter, d'organiser des débats à Paris et en région. Et ils pointent aussi du doigt les médias. Fautifs, selon eux, de ne pas assez parler du référendum d'initiative partagée, des conséquences qu'aurait la privatisation d'aéroports de Paris et du mode de participation à la pétition. Pour autant, le référendum d'initiative partagée n'est pas encore condamné. Le soutien d'un million de citoyens serait un poids inédit avec lequel les parlementaires qui ont déclenché la procédure comptent bien mettre la pression sur Emmanuel Macron. Dès que le cap du million sera atteint, ils demanderont à rencontrer le président de la République pour lui rappeler sa promesse faite au sortir du grand débat national, celle d'abaisser à un million justement le nombre de signatures nécessaires pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Emmanuel Macron va donc devoir trancher, ne pas respecter sa parole ou prendre le risque de devoir renoncer à la privatisation.
Adrien Serrière. Les loyers des résidences universitaires seront gelés en 2020. Le CNUS, l'organisme qui les gère, vient d'annoncer cette mesure réclamée par les organisations étudiantes pour faire face à la précarité. Le logement constitue le principal poste de dépense des étudiants. Et depuis la tentative d'immolation d'un jeune étudiant de 22 ans devant un CRUS à Lyon, les organisations étudiantes ont relancé la mobilisation pour demander des mesures concrètes contre la précarité. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Qui va pouvoir bénéficier de cette mesure ?
Alors on parle là de ceux qui disposent d'une des 175 000 places dans ces résidences universitaires, à comparer avec les 1,5 million d'étudiants inscrits en fac, même si tous ne sont pas confrontés à la problématique du logement. Le principe, c'est que les prix de ces appartements en Cité U augmentent chaque 1er janvier selon un indice de revalorisation des loyers. Et donc, l'an prochain, il n'y aura pas de hausse. On parle de prix autour de 100 euros par mois pour une chambre et 150 à 200 euros pour un studio de 18 mètres carrés, une fois les aides au logement déduites. Alors, pour geler ces loyers, l'État met sur la table 6 millions d'euros, un geste très significatif, commente-t-on au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin, dit la FAGE, le premier syndicat étudiant, tandis que l'UNEF réclame aussi une baisse des loyers. Il réitère également la demande portée par l'intersyndicale d'une augmentation des bourses de 20%, mais le gouvernement a pour l'instant fermé la porte, précisant les avoir déjà augmenté ces bourses à la rentrée de 46 millions d'euros. Les organisations étudiantes doivent être reçues à l'Élysée et à Matignon dans les prochains jours, et à ce stade, l'UNEF maintient toujours son appel à rejoindre la grève du 5 5 décembre pour maintenir la pression sur l'exécutif.
Merci Anne-Laure Jumet. Plusieurs syndicats appellent toujours à la grève à Radio France. C'est le quatrième jour de mobilisation avec toujours des programmes perturbés, notamment sur l'antenne de France Culture, comme en témoigne ce journal en mode dégradé. Une réunion entre la DRH et les représentants syndicaux hier n'a rien donné. La direction de Radio France se dit ouverte à des négociations sur le plan d'économie et de réorganisation de l'entreprise, mais pas sur son retrait, car elle l'estime nécessaire pour construire l'avenir du groupe. Les syndicats, eux, jugent ce plan dangereux pour les salariés, pour la pérennité du groupe et pour ses missions de service public. 299 postes doivent être supprimés et 76 créés, sur un effectif total de près de 4800 personnes. Demain vendredi, ciel couvert avec des pluies faibles sur la moitié ouest, des averses dans l'est. Les éclaircies l'emporteront l'après-midi dans le sud-ouest et au nord de la Seine. Ciel lumineux autour de la Méditerranée. Les températures iront de 4 à 14 degrés le matin. L'après-midi, il fera 9 à 15 du nord au sud jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Je vous retrouve à 19h pour le flash.